Gloire à Dieu, on est en train de continuer, pas une étude, mais une petite étude, qui est importante parce qu'on touche des sujets de base pour notre vie chrétienne, puis il faut comprendre ces sujets-là. C'est pas des sujets que vous allez entendre souvent ailleurs. Ici, à l'Église, nous croyons en certaines positions doctrinales, puis pas qu'on est obligé de justifier, mais on prêche la parole de Dieu sans restriction. C'est pas grave si tout le monde pense pas comme nous autres. C'est pas grave s'ils pensent tous comme nous autres. C'est pas ça qui compte. L'important, c'est d'être fidèle dans ce que Dieu nous demande, puis de prêcher sa parole. La Bible nous le dit, de combattre pour la foi qui était transmise aux saints. C'est ce qu'on est en train de faire quand on prêche la parole de Dieu, puis quand on la met sur Internet aussi, parce que quand on donne la possibilité à d'autres personnes de l'entendre, mais la bonne nouvelle, elle se répand, et aussi les points de doctrine de la parole de Dieu. Y a quelqu'un qui se rappelle quel sujet qu'on a parlé la semaine passée? La vraie foi qui sauve. C'est quoi la foi qui sauve, Bernard? Ah, oh, Bernard, il avait ses notes. Il triche. Il regarde.
Je l'ai
pas dit,
mais j'avais
mes notes. Ouais, mais là... Pas grave. On a le droit aux notes. Vous avez le droit de prendre des notes dans votre téléphone, les traîner sur vous autres. On a vu la vraie foi qui sauve. On a vu des points que la foi devait être démontrée par des œuvres. Une foi sans œuvre, Jacques dit, la foi sans les œuvres est morte. Ça n'a aucune efficacité, ça sauve pas. On a beau savoir que Jésus est Dieu, que Jésus y est venu v'là 2000 ans, que Jésus est mort sur la croix, puis qu'il est ressuscité, puis qu'il est monté au ciel. On a beau savoir tout cela, on peut même dire, je suis d'accord que c'est venu, je vote pour lui. Ça sauve pas encore. Parce que ça prend de foi démontrée par des œuvres. Si jamais tu crois en Jésus, tu vas vouloir changer ta vie. Tu vas vouloir qu'il change ta vie. Tu vas savoir que t'es pécheur et t'as besoin de lui. Tu vas avoir des choses qui vont changer dans ta vie. Tu vas avoir des œuvres qui démontrent que t'as la foi. Les gens vont te regarder. Waouh, c'est un gars-là, c'est un gars qui a la foi. Alors regarde, qu'est-ce qu'il fait? Sa vie est changée, puis il lâche pas de parler de Jésus. Il doit être accroché à sa drogue. Mais c'est ça la vie chrétienne, c'est qu'on n'est pas gêné, il y a quelque chose qui se passe, on en parle, on croit, mais on fait plus qu'on en croit, on démontre qu'on croit. C'est ça la foi, une ferme assurance. On est en train de regarder ces points-là pour comprendre un peu plus en profondeur que juste la croyance en Jésus. On veut regarder la vraie foi dans les un petit peu plus creux. Ben, la foi avec l'obéissance et la foi avec les œuvres. Ça revient à la même affaire. Oui. On continue un peu dans la même idée. Dans la même idée que cela la semaine passée, mais avec d'autres versets, on va approfondir puis toucher le sujet pour voir ce que Jésus s'attend de ses disciples. Dieu cherche des gens qui démontrent leur amour pour lui. Il y a eu des personnes dans la vie, là, des personnes, mettons, une fille, une jolie fille, puis elle est là, puis elle attend. Elle attend qu'un jour, que son prince charmant y vienne. Elle attend qu'il y ait quelqu'un quelque part qui y révèle qu'il l'aime. La fille va attendre, puis le gars est trop gêné pour le dire, il garde ça pour lui. Il le dit pas. Ils sont rendus à 25 ans. Les deux ont 25 ans, puis il a pas encore dit. Ils sont rendus à 30 ans. Ils sont faits par l'ensemble, mais l'autre, il dit pas qu'il l'aime. Il fait pas et pas. Il démontre pas son amour. Il cherche pas à révéler son cœur. Fait que l'autre, ils sont rendus à 45 ans, puis il s'est encore rien passé. Ils sont rendus à 60 ans, puis il s'est encore rien passé. Il dit pas qu'il l'aime. Mais notre vie chrétienne, c'est un peu la même affaire. Jésus, il est là. Puis il attend qu'on y montre qu'on l'aime. Il attend qu'on y dise qu'on l'aime. Il attend qu'on manifeste notre amour envers lui. Lui, il a déjà fait ses pas. Il a déjà démontré qu'il nous aimait. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a donné sa vie. Il est venu nous expliquer, oui, il a quitté son trône de gloire, il a quitté le ciel pour venir sur la terre, il est venu mourir sur la croix. Il a tout accompli pour qu'on puisse être sauvé. Dieu a tellement aimé le monde qu'il a donné son Fils. Il l'a donné. C'est fait. Puis là, il attend que le monde aille à lui puis qu'on lui dise, « Oui, Seigneur, moi aussi, je t'aime. » Puis là, qu'on le montre qu'on l'aime. Dieu cherche des gens qui veulent lui montrer qu'on l'aime. Puis je pense qu'il faut le faire avant de mourir. Il faut le faire avant de mourir, de montrer au Seigneur qu'on l'aime. Amen. On a vu la semaine passée que la foi qui sauve, c'est la foi qui est démontrée par des œuvres. Tu as la foi en Dieu. Tu y crois en Dieu. Mais tu vas le démontrer par des œuvres. Tu vas faire quatre choses pour le démontrer. Les premiers pas, c'est au vouloir. Seigneur, as-tu de quoi à me dire? Au moins, il pose la question. Faire des pas, il a déjà tout mis à notre disposition. Là. Tout est là, sur la table. On a juste à avancer, Seigneur, puis là, se servir dans tout ce que le Seigneur a fait. On a vu un verset la semaine passée, puis Jésus nous rappelle dans ce verset-là que pour être vraiment son disciple, il fallait demeurer dans sa parole. C'est facile de dire, « Ah, oh, ben moi, j'aime le Seigneur, puis je suis son disciple. » Facile de dire ça. Facile de dire, « Seigneur, Seigneur, mais on le fait pas, on n'avance pas, on n'écoute pas ce qu'il dit, puis on le met pas en pratique. » Jésus, dans Jean 8:31, il dit, il avait dit ça aux Juifs qui avaient cru en lui, il dit, « Si vous demeurez dans ma parole, vous êtes vraiment mes disciples. » Jésus se charge des vrais disciples. On a vu ça, que juste un vote politique, c'est pas assez. Faut s'engager à suivre Jésus. Puis une fois que tu vas demeurer dans sa parole, c'est là que tu vas connaître la vérité. C'est parce que tu as demeuré dans sa parole, tu vas vivre des choses qui vont te faire expérimenter la vérité, puis la vérité va te rendre libre. On est tous appelés à cela, pas juste nous les chrétiens. Toute la terre entière est appelée à aller à Jésus pour recevoir la liberté que Dieu veut nous donner. Le fait de demeurer dans sa parole... Quand tu demeures dans sa parole, tu es un gars à l'écoute, tu veux savoir ce que Jésus dit, puis tu veux mettre en pratique parce que tu l'aimes, tu aimes Jésus. Mais il y a des promesses extraordinaires pour ceux qui veulent demeurer dans sa parole. Une entre autres, on voit ça dans Jean chapitre 15, versets 7 et 8. Il dit, « Si vous demeurez en moi et que mes paroles demeurent en vous, » ça là, c'est quelqu'un qui est en amour avec le Seigneur, je veux garder le contact avec le Seigneur. Mais il dit, demandez ce que vous voudrez, puis cela vous sera accordé. Super de belles promesses. Dieu est à l'écoute des prières de ceux qui demeurent en Jésus, puis que la parole de Jésus demeure en eux. Dieu, il approuve ça, puis il donne des promesses. Quand je suis avec vous, je vous regarde, j'écoute vos prières, puis vous allez être exaucés. On veut-tu être des gens exaucés? On veut-tu recevoir du Seigneur selon nos prières, mais demeurons en amour avec Jésus, puis gardons sa parole. Vivons sa parole. Engageons-nous, qu'il disait. Ça, là, c'est important. C'est un engagement à suivre Jésus. On comprend que quand on s'engage à suivre Jésus, quand on le vit vraiment, là, d'être en communion avec lui, puis qu'on veut garder sa parole, c'est pas quelque chose de nouveau, puis c'est pas quelque chose d'extraordinaire. Jésus a déjà fait la même chose ici, sur la terre, avec son Père. Dans Jean, chapitre 15, versets 9 et 10, ceux qui ont des Bibles, ça va à peine, je vous invite à l'ouvrir pour le regarder. Tous les versets valent la peine, mais disons que celui-là, il touche un peu le point que je veux emmener aujourd'hui. La base de notre relation avec Jésus, c'est la même que Jésus avait avec son Père. Écoutez bien ce que Jésus dit. Il dit, « Comme le Père m'a aimé. » Quand Jésus, là, il était sur la terre, son Père l'aimait, Jésus, là, il chérissait, là, il était à côté de lui, puis il l'écoutait. Puis il l'a même dit à tout le monde, il dit, « Voici mon Fils bien-aimé, en qui j'ai mis toute mon affection. » Dieu, le Père, il aimait Jésus. Mais là, dans ce verset-là, Jésus est en train de dire, comme le Père m'a aimé, je vous ai aussi aimé. Il parle à ses disciples, là. Quand tu es un disciple de Jésus, tu es aimé par Jésus, la même chose que Dieu le Père aimait Jésus. C'est quelque chose. Des fois, on vit notre vie, là, notre vie chrétienne, on marche avec le Seigneur, mais ça, des fois, avec le temps, ça devient un peu routinier, puis on n'est plus aussi sûr qu'on est aimé de Dieu. On pense que peut-être qu'on a trop fait de péché, puis que là, il nous aime plus, puis où on vit des combats, puis des doutes, puis l'ennemi nous met tout ça dans les oreilles. Mais ça, c'est des mensonges. Dieu nous aime, puis Jésus nous aime, comme le Père a aimé Jésus. C'est quelque chose, ça, là, ce qu'on apprend là, là. Fait que sentez-vous, parce que vous êtes disciples de Jésus, là, sentez-vous aimé par Jésus, de la même chose que Dieu le Père aimait Jésus. Mais là, il nous dit, demeurez dans mon amour. Parce que là, d'apprendre que Jésus nous aime, c'est quelque chose d'extraordinaire. Mais là, il nous dit, demeure dans son amour. Là, il est en train de comme pas se mettre un doute du tout, là, c'est pas un doute qu'il veut mettre, mais il veut qu'on se rende compte que la marche dans l'amour de Dieu dépend de nous et non pas de lui. Lui, il nous aime. La base du salut, là, c'est à cause de l'amour de Dieu. Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils. Dieu, il aime tout le monde. Si un jour, il y a du monde qui s'en va dans l'étang de feu, c'est pas parce que Dieu les aimait pas. Dieu les aimait. Il y a plein de monde que Dieu aime qui s'en va dans l'étang de feu. Le problème n'était pas l'amour que Dieu a pour nous. Le problème est la vie des gens face à Dieu. C'est ça le problème. Il y a des choses qui bloquent ce qu'on pourrait recevoir de Dieu. Puis le problème qui bloque vient pas de Dieu, vient de nous. Là, il dit, je vous aime comme le Père m'a aimé, mais il dit, demeure dans mon amour, reste dedans. Il dit, si vous gardez mes commandements, Jésus qui dit ça, si vous gardez mes commandements, vous demeurerez dans mon amour. Amen. Voyez-vous, là, tout comme si la balle nous est lancée. Ça dépend de nous si Dieu nous aime ou nous. Il va nous aimer, je veux dire, mais qu'on va pleinement goûter ce que Dieu a pour nous. En demeurant dans son amour, comment je vais faire pour lui dire que je l'aime puis que je marche dans son amour, mais il dit, garde mes commandements. Suis ma parole, c'est ça que ça veut dire, garde mes commandements. Si tu gardes mes commandements, tu vas demeurer dans mon amour. De même, Jésus qui dit ça, j'ai gardé les commandements de mon Père et que je demeure dans son amour. Ce que Jésus nous demande à nous, Dieu le Père l'a demandé à Jésus. Jésus l'a déjà prouvé qu'il aimait son Père, puis il a demeuré dans l'amour de son Père parce qu'il a accompli la volonté de son Père. Il a marché dans les commandements de son Père. Il a obéi à son Père, il a servi son Père. Il a resté dans un désir d'être connecté avec son Père, puis de glorifier son Père. Il a demeuré dans son amour. Mais il nous demande la même affaire à nous. Il dit, je vous aime, mais c'est à vous de rester dans mon amour, puis si vous m'aimez vraiment, vous allez garder mes commandements. C'est une des manières qu'on démontre à Dieu qu'on l'aime. Amen. Amen. Dieu, il aime l'humanité. Il l'a dit dans Jean 3, 16, il a tellement aimé le monde qu'il a donné son Fils unique. Il dit, Dieu a aimé l'humanité, mais il nous aime encore plus. Il y a un verset qui dit qu'il prend soin de nous comme la prunelle de ses yeux. On est important, on est sa fiancée, puis en plus, il a mis en nous l'esprit de son Fils. L'esprit de Dieu est en nous, puis il chérit l'esprit de Dieu, puis il nous aime, dans d'autres versets, d'un amour éternel, parce qu'on lui appartient, puis il y a toutes les plus grandes et les plus précieuses promesses sont pour nous. Il a tout préparé cela pour nous. Il a créé l'univers pour nous. Toute cette misère-là, c'est pour que nous, on puisse goûter, mais premièrement, le voir, le contempler, puis d'être heureux dans sa présence, mais qu'on puisse goûter aussi tout ce qu'il a préparé dans la vie éternelle. Ça va être spécial, mais qu'on soit rendu là. On va comprendre encore plus l'amour de Dieu, mais qu'on soit rendu là. Aujourd'hui, on est un peu limité à cause de notre faiblesse, de notre chair qui est dure, qui est insensible, puis on a de la misère. Déjà, d'aimer quelqu'un qu'on voit, en parlant de notre conjoint ou notre prochain, des fois, on arrache. Mais un jour, on n'aura plus ces blocages-là, puis on va être pleinement dans l'amour de Dieu. Ça va être spécial. Alléluia. Maintenant, on comprend qu'il veut qu'on demeure dans son amour. Notre relation avec Jésus, de demeurer en lui, est conditionnelle. Cela dépend de nous. Il faut demeurer dans l'amour de Dieu en voulant marcher dans ses commandements. Seigneur, t'aimes ça, tel commandement-là, t'aimes ça, je vais le faire. Même si ça me tenterait de faire le contraire. Même si j'aurais des occasions de faire le contraire. Mettons, quelqu'un, il est voleur de nature. Mais dans le commandement, ça le dit de pas voler. Puis dans la parole de Dieu, il y a plein de places qu'il dit. Tu veux obéir à Dieu, tu veux plaire à Dieu, qu'est-ce que tu vas faire? Seigneur, moi, je veux être honnête. Je vais déclarer ces montants-là dans mon rapport d'impôt. Okay? Ma chair veut pas, elle aimerait ça frauder. Mais moi, je veux te plaire, Seigneur, je veux faire ce que t'aimes, quand j'ai déclaré mes affaires. Ça, c'est un exemple, mais dans tous les points d'enseignement de la parole de Dieu, c'est de se remettre en question, puis de chercher à obéir au Seigneur parce qu'on l'aime. Pour conclure cette idée-là, qu'il faut demeurer dans l'amour puis en gardant ses commandements, un disciple de Jésus doit obéir à ses commandements afin de demeurer en lui. Parce qu'on doit comprendre que quand on désobéit, il se passe quelque chose. C'est pas parce que ça, il veut nous torturer qu'il nous demande d'obéir. Mais il sait qu'on est dans une guerre spirituelle, puis que le diable est là. Puis que quand on désobéit, on tombe sur le jugement du diable. Puis là, le diable nous rentre dedans, puis il nous attaque, puis on lui donne accès. Puis c'est écrit dans plein de passages de résister. Puis il va fuir si tu résistes. Tu vas avoir la victoire parce que tu es déjà acquise la victoire dans le nom de Jésus. Mais c'est pas juste pour nous torturer qu'il nous demande d'être saint, puis qu'il nous demande d'être droit, puis d'être juste, puis d'être honnête, puis tout. C'est pas pour nous torturer, c'est parce qu'il veut pas qu'on tombe dans les mains du diable. Mais si t'aimes assez Jésus, parce que tu as réalisé comment Jésus t'aime, comment Dieu t'aime, bien là, c'est pas compliqué de dire « je veux l'aimer à mon tour, puis je vais marcher avec lui ». Dans Jean 14, 21, ça dit « celui qui a mes commandements et qui les garde, c'est celui qui m'aime. Et celui qui m'aime sera aimé de mon Père. Et je l'aimerai, puis je me ferai connaître à lui. » On veut-tu approfondir une relation, un contact encore plus profond avec le Seigneur?
Oui.
Bien, demeurons dans ses commandements. Il dit, si tu demeures dans ses commandements, tu démontres que tu l'aimes, mais dis là, mon Père va t'aimer encore plus, parce qu'il nous aimait déjà. Puis, il dit, je me ferai connaître à lui. On va en avoir encore plus de ce qu'il a à nous donner, de ses révélations, de ses connaissances, de ses dons, de ses fruits. Tout ce qu'il a promis, de ses promesses, ses bénédictions, il va nous en donner encore plus, parce qu'il voit qu'on veut marcher puis s'approcher de lui. Lorsque Jésus nous demande de demeurer dans sa parole ou dans ses commandements, il nous demande de demeurer dans quoi? C'est une bonne question. Ça en est un point. Pour cela, parce que là, on a la Bible. Tout le monde sait que dans la Bible, il y a l'Ancien Testament puis il y a le Nouveau Testament. Il y a deux testaments. Il y a deux manière de servir Dieu. Dans la loi de Moïse, il y avait une manière de servir Dieu, de s'approcher de Dieu. Il y avait une manière d'être pardonné de leurs péchés en offrant des animaux en sacrifice. Il y avait toutes sortes de rituels, il y avait toutes sortes d'affaires pour s'approcher de Dieu. Puis dans la Nouvelle Alliance, il y a d'autres choses. Là, on parle de commandement, on parle qu'il y a deux alliances. Là, on faut démêler cela parce que il y a du monde qui part dans l'idée, oups, ils se gorochent dans l'Ancien Testament puis ils veulent leur pratiquer tout ce qui est écrit là. Puis c'est un danger parce que je vais vous expliquer un peu la différence entre les deux. Jésus, il veut nous faire comprendre une chose dans Matthieu 5, 17. Il n'est pas venu pour abolir la loi de Moïse. Elle est encore toute là, la loi de Moïse. Elle est encore pleinement en action, puis elle agit encore dans le rôle qu'elle était supposée d'agir. Sauf que Jésus, il l'a mis en pratique au complet. Il n'a pas commis un seul péché. Il n'a pas fait une seule désobéissance à ce que Dieu a demandé dans la loi de Moïse. Fait que la loi de Moïse est encore là, mais Jésus nous dit, dans Matthieu 5, 17, « Ne croyez pas que je suis venu pour abolir la loi ou les prophètes. Je suis venu non pour les abolir, mais pour les accomplir. » Puis c'est ce qu'il a fait. Puis à cause que Jésus a accompli la loi telle que c'était toutes les exigences de la loi, il a pu être une personne sans péché, déclaré juste par Dieu, puis il pouvait prendre notre place pour qu'on puisse être sauvé. Grâce au fait qu'il a tout accompli la loi de Moïse, il l'a mis en pratique sans désobéir une seule fois, ça a fait que Jésus était déclaré juste par son Père, puis à cause qu'il était juste, là, il pouvait mourir pour les coupables. Il pouvait prendre notre place. Mais contrairement à ce que du monde pense aujourd'hui, est encore là, la loi de Moïse. Il l'a jamais abolie. Est encore agissante. Il y a encore du monde qui pense qu'ils peuvent être sauvés par la loi de Moïse, sauf que la Bible, elle dit que personne ne peut être sauvé par la loi. Personne n'a pu tout la mettre en pratique, sauf Jésus, bien sûr. Si la loi de Moïse est encore là, devons-nous la pratiquer entièrement? Parce que c'est Dieu qui a fait ces exigences-là. C'est Dieu qui a demandé de mettre en pratique telle et telle chose à ceux qui voulaient s'approcher de lui. C'est là qu'on faut faire une séparation entre l'ancienne alliance puis la nouvelle alliance. Dans Galates 5, le verset 1 à 3, l'apôtre Paul est en train de l'expliquer. C'est pour la liberté que le Christ nous a affranchis. Il dit, demeurez donc fermes et ne vous laissez pas mettre de nouveau sous le joug de la servitude. Il dit, voici, moi, Paul, je vous dis que si vous vous faites circoncire, Christ ne vous servira de rien. Il dit, je proteste encore une fois à tout homme qui se fait circoncire qu'il est tenu de pratiquer la loi tout entière. Dans ce passage-là, c'est en train de nous expliquer quelque chose. Pour ceux qui ne savent pas, dans l'ancienne alliance, la première alliance que Dieu a faite avec les Juifs, les hommes devaient se faire circoncire pour démontrer qu'ils s'engageaient à suivre la loi de Moïse. Tu ne pouvais pas être un incirconcis puis dire que tu pratiquais la loi de Moïse. Le premier pas d'obéissance, c'était de te faire circoncire, puis après ça, tu pouvais adhérer à pratiquer les fêtes, les lunes, les sabbats, à pratiquer les 613 préceptes de la loi, puis à présenter des sacrifices d'animaux pour pouvoir être pardonné de tes péchés. Fallait que tu te fasses circoncire. Puis le problème qui arrivait au début, après que Jésus soit, que l'Église a commencé à s'ouvrir au peuple qu'il y avait autour, mais il y avait des Juifs que quand ils acceptaient Jésus, ils retournaient à pratiquer la loi de Moïse comme c'était auparavant. Puis il y en a qui n'étaient pas circoncis, qui décidaient de se réengager à se faire circoncire. Puis là, l'apôtre Paul, il a commencé à faire une séparation entre ces deux alliances-là. Il a dit ça, c'est la loi de Moïse, puis là, on est sous la nouvelle alliance qui est dans le sang de Jésus. Puis là, en faisant séparation, il dit aux gens de ce temps-là, qui voulaient se convertir à Dieu, il dit, si vous vous faites circoncire, vous êtes tenus de pratiquer la loi tout entière. Tu peux pas, une fois que tu es chrétien, penser que tu vas gagner ton ciel en te faisant circoncire puis en pratiquant la loi, parce qu'il n'y a personne qui a été justifié à part Jésus d'avoir accompli la loi tout entière. Il n'y a personne qui a réussi. Puis c'est à ces gens-là que Paul il dit, tous ont péché, ils sont privés de la gloire de Dieu. Il n'y a point de juste, pas même un seul. Mais quand Paul y expliquait ça, il prenait des passages de l'Ancien Testament, puis il disait à tout le monde, regardez, la Bible, elle dit, il n'y a point de juste, pas même un seul. Il y a juste Jésus qui a pu tout l'accomplir. Fait que si tu dis, moi, je veux suivre Jésus, puis là, tu veux te faire circoncire, pratiquer la première alliance, mais il dit, Christ ne vous servira de rien. Ça servira à rien que tu dises que tu crois en Jésus si tu te fais circoncire et tu commences à suivre la loi. La loi de Moïse est encore là. Dieu ne l'a pas abolie. Est encore là. Mais Dieu a envoyé un autre sacrificateur. C'est ça qu'il faut comprendre aussi. Jésus n'était pas n'importe qui. C'était Dieu lui-même. Mais il était un sacrificateur. C'est quoi un sacrificateur? Un prêtre. Quelqu'un qui pouvait présenter des offrandes à Dieu. Comme les sacrificateurs dans l'Ancien Testament. Aaron, toute sa descendance, mais il était ceux qui présentaient des sacrifices à Dieu pour apaiser, pour les pardons des péchés. Il offrait des taureaux, il offrait des agneaux, il offrait des oiseaux en sacrifice. Il versait le sang, puis il faisait brûler les animaux. Les sacrificateurs, c'était leur job. Mais Jésus est venu comme étant un souverain, un chef de sacrificateur, mais selon une autre lignée. Il venait pas comme dans la lignée d'Aaron puis toute sa descendance. Il est venu dans la lignée de Melchisédek, que la Bible nous dit ça. Ça peut-être, ça vous dit pas grand-chose. Mais prophétiquement, c'était dit que Melchisédek est un personnage dans l'Ancien Testament. C'est un sacrificateur, mais pas selon la lignée d'Aaron. Fait que Jésus est venu comme étant un chef de sacrificateur pour une nouvelle alliance, pour offrir à Dieu une nouvelle manière de servir Dieu. C'est comme si Jésus a parti une nouvelle manière de s'approcher de Dieu, complètement différente de l'ancienne. Il y a des points dans l'ancienne qui se retrouvent dans l'idée qu'il fallait qu'on offre à Dieu un sacrifice pour être pardonné, parce que la Bible, elle disait, sans effusion de sang, il n'y a pas de pardon. Il fallait que ça se fasse, qu'on offre du sang. Mais Jésus, en tant que souverain sacrificateur, il a offert son sang, lui, pour nous assurer de pouvoir obtenir les promesses de Dieu. Fait que Jésus est venu dans comme un autre lignée de sacrificateurs, selon, mais ça, je veux pas trop vous mêler, je veux pas aller trop loin avec cela, mais je veux rester en surface. Je veux qu'on comprenne que l'Ancien Testament puis le Nouveau Testament, c'est deux choses complètement séparées, avec des sacrificateurs différents, avec des lois différentes, avec une manière de s'approcher de Dieu qui est différente. Anciennement, c'était avec des animaux, puis maintenant, c'est à travers de Jésus puis son sacrifice à lui. La loi de Moïse est encore là, mais Dieu nous a envoyé un autre sacrificateur, puis a établi une nouvelle alliance pour offrir aux gens une nouvelle manière pour être sauvés. C'est là que je l'ai résumé plus en français, en québécois. Dans Hébreux 7, le verset 11 à 12, ça dit, en parlant de l'ancienne alliance, il dit, si la perfection aurait été possible par le sacerdoce lévitique, car c'est sur ce sacerdoce que repose la loi donnée au peuple, on avait-tu encore besoin qu'il parût un autre sacrificateur selon l'ordre de Melchisédek? Il est en train de dire, s'arrêter si parfait que ça, l'ancienne alliance, il n'y aura pas parti une nouvelle alliance. C'est ça qu'il est en train de dire. Car le sacerdoce étant changé, ils ont changé de sacerdoce. Avant, ta manière de servir, c'était selon l'Ancien Testament. Maintenant, la nouvelle manière de s'approcher de Dieu, c'est selon un nouveau sacerdoce, une nouvelle manière de s'approcher de Dieu. Mais s'il y a eu une nouvelle manière donnée par Dieu, il y a aussi un changement de loi. Là, on arrive dans le point que je veux qu'on comprenne. Il y avait la loi de Moïse avec ses 613 préceptes et les commandements de Dieu dans l'Ancien Testament. Puis maintenant, dans le Nouveau Testament, il y a eu un changement de loi, parce qu'il y a eu un changement de manière de s'approcher de Dieu. À cette heure, c'est par Jésus. Fait que même les lois dans la Nouvelle Alliance sont différentes de les lois de l'Ancienne Alliance. Il y a maintenant un autre sacerdoce, puis il y a aussi maintenant un changement de loi. Gardez toujours à l'esprit, comme j'ai dit tout à l'heure, Jésus dit, si vous m'aimez, gardez mes commandements. Ouais, mais c'est quoi ces commandements qu'on va suivre? Là, je suis en train de faire comme une séparation pour vous dire, il y a les lois et les commandements de l'Ancien Testament, puis il y a les lois et les commandements du Nouveau Testament. Ce que Jésus appelle sa parole. La loi de Moïse est encore là pour juger les transgresseurs, mais elle peut pas sauver personne. Dieu a pourvu une autre alliance au travers de son fils Yeshua pour nous rendre parfaits devant Dieu. Dans la nouvelle alliance. Dans Hébreux chapitre 7, les versets 18 à 19, juste un petit peu plus loin de ce que je venais de vous lire, il y a eu une abolition d'une ordonnance antérieure à cause de son impuissance et de son inutilité. Il est en train de dire que la loi de Moïse est impuissante, inutile pour sauver quelqu'un. Car la loi n'a amené la loi n'a rien amené à la perfection. Mais il est en train de dire que c'est une introduction pour une meilleure espérance par laquelle nous nous approchons de Dieu. C'est qu'il fallait qu'on comprenne que la loi avait un rôle à jouer. Lequel? De nous montrer qu'on était tous des pécheurs. Puis ça, c'est une préparation, une introduction à nous présenter la nouvelle manière d'être sauvé à travers de Jésus. Pas parce que tu vas faire des œuvres puis tu vas gagner ton ciel, que tu vas, par tes propres efforts, être tellement bon qu'on va te donner le ciel. Non. Tu as réalisé qu'à cause de la loi, on était tous des pécheurs, puis on ne pouvait pas le dire qu'on est si bon que ça pour gagner notre ciel. Mais on vient de comprendre que Jésus a tout accompli en tant qu'un sacrifice parfait pour nous rendre parfaits. Jésus est venu pour accomplir la loi. Puis quand tu vas à lui, non seulement il te pardonne de ses péchés, mais il te donne, lui a été déclaré juste, il te donne d'être un juste gratuitement. Il a payé, puis il nous donne sa justice. Fait que quand tu arrives à lui, mettons, moi je me présente, Seigneur, je suis impuissant de me sauver par moi-même, par la loi. Mais je crois que tu es mort sur la croix. Ton sang qui était versé, c'est le sang que je vais offrir à Dieu pour être pardonné. Mais là, il me pardonne, puis il dit, maintenant, tu es un juste. Il me déclare juste, puis il me déclare sauvé. Pas parce que je mérite quelque chose, pas du tout. C'est à cause que Jésus a tous les mérites, puis qu'il nous donne ses mérites. C'est quelque chose, la nouvelle alliance. Mais une fois que tu veux t'approcher de Dieu, puis que tu sais que la nouvelle alliance est là, tu veux plus te faire circoncis et commencer à pratiquer la loi de Moïse, même si c'est encore là, est inutile, puis elle ne pourra jamais t'amener à être parfait. Tandis que Jésus, par son sang, par le Saint-Esprit, lui peut nous amener à être comme lui. Amen. Maintenant que Jésus a parlé de garder sa parole, parce que là, on est rendu dans le point que je veux nous amener. Il nous dit, si là, tu vas aller à Jésus, tu réalises que c'est le chemin pour être sauvé. Tu arrives à lui, puis Jésus nous dit, si tu m'aimes, il dit, je t'aime. Merci, Seigneur, de m'aimer. Mais il dit, si tu m'aimes, tu vas garder ma parole. Puis il dit aussi, dans d'autres versets, j'ai dit, tu vas garder mes commandements. Oui, Seigneur, je veux obéir, je veux marcher avec toi, et je veux tout que tu as me donné aussi. Je veux être pardonné, je veux le Saint-Esprit, je veux les promesses, je veux ma place dans le royaume éternel. Puis il veut tout te donner, mais il dit, montre-moi que tu m'aimes. Dans d'autres versets, il va dire, renonce à toi-même, prends ta croix, suis-moi. C'est ça qu'il va nous dire. Maintenant que Jésus a parlé de garder sa parole, ce qu'il voulait dire, là, c'est de garder les enseignements de Jésus puis les enseignements que les apôtres ont enseignés. Parce que Jésus a enseigné les points qui font partie de la nouvelle alliance. Puis les apôtres aussi. Ils envoyaient des lettres à toutes les églises puis ils leur disaient, Bon, master, c'est ça, là. Faites attention à ça, touchez pas à ça, faites ça. Ça, ça fait partie de la loi de Christ, la nouvelle alliance. Puis tu as tous les points qu'on doit mettre en pratique, qu'on doit, des choses qu'on doit pas faire, puis il y a des choses qu'on doit faire. C'est tout écrit là-dedans. Le Nouveau Testament, c'est la Nouvelle Alliance, puis là-dedans, tu as toutes les, ce qui fait partie des enseignements de Jésus. Comme par exemple, dans l'Ancien, ça disait « œil pour œil, dent pour dent ». Jésus, dans le Nouveau, il nous dit quoi? Tendre la joue. Bon, ça, ça n'est un exemple, mais tous les enseignements du mode de vie de chrétiens sont là dans le Nouveau. C'est ses commandements, c'est sa parole. Puis il dit « garde ma parole ». Montre-moi que tu m'aimes, garde ma parole, m'en pratique ce que je te dis. Dans Éphésiens, au chapitre 2, le verset 20, ça nous dit, vous avez été édifiés. Ça, édifié, ça veut dire, vous êtes devenu une bâtisse, vous êtes devenu une habitation, une maison. Vous avez été construit pour être une maison. En tant que chrétien, en tant qu'Église. Il dit, vous êtes rendu une maison sur le fondement. Là, on a une cave, on a un fondement. Notre maison que nous sommes en tant qu'Église, en tant qu'individu formant l'Église, le fondement des apôtres, puis des prophètes, puis Jésus étant lui-même la pierre angulaire, la pierre de l'angle, la pierre qui soutient toute la bâtisse. Ça veut dire, il dit, présentement, quand tu t'adhères à Jésus, tu veux suivre Jésus, tu veux être son disciple, tu es en train de bâtir ta vie sur un fondement. Ta base, c'est ce que j'ai parlé aussi la semaine passée dans le message. Il dit, tu as bâti sur le roc. Ton fondement, c'est du solide, c'est la parole de Dieu, la parole de Jésus, ses enseignements. On est en train de bâtir sur le fondement des apôtres. Ça veut dire les apôtres nous ont tous dit les enseignements de ce que ça devrait être, la foi en Christ, puis comment bon, vivre notre vie avec le Christ. On construit là-dessus. Puis là, il dit, en lui, en Jésus, là, tout l'édifice, toute la bâtisse qui est en train de se bâtir est bien coordonnée, est bien bâtie de la façon que la fondation nous a partie. On est sur du solide parce qu'on bâtit sur la parole de Jésus. Et c'est bien coordonné, puis ça s'élève, cette bâtisse-là, pour être un temple saint dans le Seigneur. L'Église, en bâtissant sur la parole de Dieu, elle devient un temple saint, une habitation de Dieu en esprit. Mais il faut que la bâtisse soit bâtie sur le fondement, la parole de Dieu. Parce que si on ne suit plus la parole de Dieu, on ne suit plus l'enseignement de Jésus, on ne suit plus les commandements de Dieu, sa parole, on est en train de bâtir sur du sable. Puis la bâtisse va s'écrouler. C'est pour ça que Jésus dit, si tu m'aimes, tu vas bâtir sur ma parole, puis tu vas devenir un solide, une maison bien coordonnée, bien solide, puis Dieu va habiter avec nous. Amen. Amen. C'est ce qu'il disait dans un autre verset. Tu gardes ma parole, mon Père va t'aimer, je viendrai, puis je me ferai connaître à lui. Si on demeure dans sa parole qui est le fondement, il dit, on va apprendre à comprendre Dieu, à connaître Dieu de plus en plus profondément. Il va se révéler encore plus. On va vivre de plus en plus de ce qu'il a à nous donner. On est édifié comme un édifice pour être une habitation de Dieu en esprit. Quand on lit les écrits de la parole de Dieu dans le Nouveau Testament, tous les points de doctrine nous ont été donnés comme étant comme des bornes sur le bord de notre chemin. Tu sais, que c'est comme si on avait une route bien éclairée, puis chaque bord du chemin, là, tu as des limites qu'il faut pas franchir. Puis Jésus, dans une autre parabole, il appelle ça une route, un chemin étroit et resserré, mais nous, on va appeler ça la route qu'il a inaugurée pour nous, puis qui nous emmène dans le royaume. C'est de demeurer dans sa parole. Puis ça, c'est comme pour nous. Il dit, ta parole est une lampe à mes pieds. Ça veut dire que notre chemin y est éclairé. Par quoi? Par tous les enseignements qui sont là. C'est ça qui éclaire notre route. Tant que tu restes dans l'éclairage que la parole te donne, tu es en train de garder le cap pour marcher vers le Seigneur. Dans tous ces points-là, tu as comme les bornes. Quand Dieu il dit « Fais pas telle affaire » dans sa parole, bien, c'est pour te dire, là, tu arrives, c'est à la limite, dépose pas cela, là, sinon tu vas débarquer du chemin. Voyez-vous? Dans Romains 13, 9, là, on rentre dans l'idée un peu, je fais juste frôler ce sujet-là, des commandements qui étaient dans l'Ancien Testament. Parce que vous savez qu'il y a les 10 commandements, c'est les deux tables de pierre que Moïse a descendues de la montagne avec deux tables en pierre, écrites, 10 paroles, 10 commandements que Dieu a écrits, puis c'est écrit par le doigt de Dieu sur ces roches-là. C'est Dieu qui a donné ça à Moïse. Vous pourrez aller les lire, les 10 commandements, dans Exode au chapitre 20. Puis on va en parler un peu plus la semaine prochaine, si Dieu le permet. Mais dans Romains 13, 9, ça dit, en effet, les commandements, là, il y en a une coupe. Tu commettras point d'adultère, tu ne tueras point, tu déroberas point, tu convoiteras point. Puis ceux qui peut y avoir encore se résument dans cette parole. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Là, on rentre dans l'idée du commandement nouveau que Jésus nous a donné. Jésus nous a donné un commandement nouveau, mais qui englobe les autres commandements. Quand il nous dit, dans un autre verset, dans Jean 15, le verset 12 à 14, ça dit, « C'est ici mon commandement, là il nous en nomme un, entre autres, aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé. Il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ses amis. Vous êtes mes amis si vous faites ce que je vous commande. » Voyez-vous, il y a encore l'idée d'obéissance à ses commandements. Il nous dit, vous êtes mes amis si vous faites ce que je vous commande. Il nous dit, je vous donne un commandement nouveau, aimez-vous les uns les autres. L'apôtre Paul, je venais de vous lire, tous les commandements de l'Ancien Testament, de pas commettre l'adultère, de pas tuer, de pas dérober, de pas convoiter, tous les 10 commandements, là, mais ils se résument dans tu aimeras ton prochain comme toi-même. Ça fait partie d'un des commandements du Seigneur. On va voir la semaine prochaine comment ces commandements-là ont tous été repris dans le Nouveau Testament, ces 10 commandements-là. Jésus en a parlé, puis les apôtres n'ont parlé. Ça fait partie, parce que là, il dit, tu aimeras ton prochain comme toi-même, ça résume les 10. Ça veut dire, si tu veux aller en détail pour éplucher c'est quoi que ça veut dire, aimer ton prochain comme toi-même, mais là, tu vas aller étudier les 10 commandements pour voir ça va jusqu'à où. Ces commandements-là, tu vois, tu vas pouvoir voir encore plus clair de ce que Jésus nous demande de pratiquer en tant que si on l'aime. Je vais vous lire un dernier verset. Lorsqu'une personne est née de nouveau et qu'elle cherche à pratiquer les commandements du Seigneur, elle démontre qu'elle connaît Jésus. Dans 1 Jean chapitre 2, le verset 3 à 6, il dit, si nous gardons ses commandements, par là nous savons que nous l'avons connu. Je ne sais pas si ça vous fait le même effet que moi, mais on a des commandements à pratiquer pour démontrer qu'on aime Jésus, pour démontrer qu'on l'a connu, pour demeurer en lui. On a vu plusieurs points là, dans tous les différents versets. Ça a toujours rapport, garde mes commandements, puis là, je vais vous aimer, mon Père va vous aimer, je vais vous me révéler encore plus. Il dit, celui qui dit, j'ai connu Dieu, mais qui garde pas ses commandements, c'est un menteur. Puis la vérité n'est point en lui. Mais celui qui garde sa parole, là, on voit que quand il parle de commandements, il parle de sa parole. Parce qu'il y en a qui ne croient pas que la Bible, le Nouveau Testament, ils ne croient pas que c'est des commandements du Seigneur. Ils croient tous, oh, t'es sauvé pour la liberté, fait qu'on n'a plus de loi à pratiquer. C'est archi faux, cette doctrine-là, c'est satanique. Jésus s'attend que tous ses disciples soient dans l'obéissance à ses commandements, à sa parole. Puis toutes les fois que Jésus ouvrait la bouche, c'était pas juste des suggestions, c'était des commandements. Jésus, c'est le grand commandant de l'armée de Dieu. Toutes ses paroles, c'est des ordres. C'est lui, on est à son service, on est ses serviteurs. On doit l'obéissance à ce grand Dieu-là. Fait que, on le fait pas pour gagner notre ciel, puis ça, je vais en reparler aussi la semaine prochaine. On fait pas les commandements pour gagner notre ciel. Jésus nous l'a déjà donné en allant à lui. Il nous a pardonné nos péchés, il nous a mis sa justice sur lui. Il nous aime, puis il nous a déjà donné inscrit notre nom dans le livre de vie. Ce qu'il nous demande, c'est de demeurer en lui. Si tu veux demeurer en lui, c'est pas que lui voulait pas que tu rentres si tu rentres pas. C'est parce que c'est toi qui n'as pas voulu t'ajuster pour demeurer en Jésus. Si tu débarques de ses commandements, puis tu veux désobéir à sa parole volontairement, tu es en train de sortir du chemin. Si tu te repens pas, tu vas mourir séparé de lui. Faut que tu demeures en lui. Dis, si tu l'aimes assez pour le suivre, tu vas l'aimer pour obéir. Il dit, celui qui garde sa parole, l'amour de Dieu est véritablement parfait en lui. Avez-vous un amour de Dieu parfait? Mais si j'avais un amour de Dieu parfait, vous allez vouloir garder sa parole. On peut pas dire, j'aime Jésus, puis on veut désobéir volontairement à tout ce qu'il a dit. Ça se peut pas. Il dit ça, c'est un menteur. Et par là, nous savons que nous sommes en lui. Quand tu gardes sa parole, celui qui dit qu'il demeure en lui doit marcher aussi comme il a marché lui-même. Parce que Jésus a marché dans l'obéissance de son Père. Si tu dis que tu es en lui, en Jésus, tu vas marcher toi aussi dans l'obéissance du Père de Jésus. Amen. Prions. Seigneur, je te remercie pour ta parole. Grave-la dans nos cœurs. Qu'on ait à cœur, volontairement, parce qu'on t'aime, de t'obéir, de te servir, de marcher dans ta parole, dans tes commandements. Donne-nous de comprendre encore plus creux ces choses-là pour qu'on puisse les vivre pleinement tout le temps. On t'aime, Seigneur. On est content de te connaître. Puis on ne veut pas aller ailleurs. Tu as les paroles de la vie éternelle. On te donne nos vies, Seigneur. Prends-les, puis viens faire le changement. Dans le nom de Jésus que je te prie. Amen.